Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Moi, j'ai pas de casque, c'est normal. C'est absolument normal.
Sinon, tu vas t'entendre et c'est gênant.
Ah oui, d'accord. Toi, tu t'entends et ça te gêne pas.
Moi, je suis une professionnelle.
C'est ça la différence. Très bien.
Il paraît que toutes les femmes rencontrent au moins une fois dans leur vie un pervers narcissique. Il paraît aussi qu'une fois qu'on est tombé dans ses griffes, il est long, difficile et douloureux d'en sortir. Et qu'à moins d'apprendre de cette expérience, on risque d'y retomber. Mon invité du jour raconte une histoire d'amour qui partait bien, mais qui part en couille. On en discute ensemble, mettez-vous à l'aise, c'est parti pour une nouvelle rencontre impertinente. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes. Il a été réalisé grâce au soutien du Blob Café. Je remercie sa fondatrice Laurie, elle vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 20h au Blob Café Coworking, 20 rue de Chanzy dans le 11e arrondissement parisien. Vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques sur le site internet blobcafé.fr ou via le compte Instagram @blob_café_coworking. Merci beaucoup. C'est donc dans cet endroit cosy que j'avais donné rendez-vous à l'autrice et illustratrice Sophie Lambda. Elle vient de publier un roman graphique, Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur narcissique. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça et comment s'en sortir? On n'a pas toutes les réponses, mais j'espère qu'on aura aidé celles et ceux d'entre vous qui en ont besoin à se poser les bonnes questions. Un dernier mot avant de te laisser en compagnie de Sophie Lambda. Si tu aimes ce podcast, tu peux vraiment m'aider de trois manières. En écoutant les spots de pub au début et tout à la fin de la piste, en me soutenant via Patreon si tu gagnes plus que le SMIC, et en faisant découvrir mes émissions à tous tes proches. Merci et c'est parti. Bonne écoute. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Tu es autrice, dessinatrice, illustratrice, pardon, c'est comme ça ton
nom ? Ouais, illustratrice, exactement.
Et tu viens de publier chez Delcourt un roman graphique.
Oui.
Qui s'appelle Tant pis pour l'amour.
Absolument.
Et qui parle de... Alors, ton personnage a été dans une relation assez épique.
Assez épique. Ouais, épique, c'est bien comme adjectif. Ouais. Émotionnellement épique. Épictionnel.
Ma première question générale, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Donc du coup, je suis à la base illustratrice et maintenant du coup autrice de bande dessinée ou roman graphique. Voilà. Et donc la première BD est sortie fin 2019, là, où on aborde un sujet très léger, qui est la manipulation et l'emprise psychique sur quelqu'un, sur les gens, sur le cerveau.
Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ?
Je suis tombée dedans, comme une petite innocente, comme une petite bleue. Je suis tombée dedans les yeux fermés, sachant que je pense que je me pensais vraiment à l'abri de... Alors, je connaissais pas le sujet, puisque tant qu'on n'a pas tombé dedans, finalement, je pense pas qu'on s'y intéresse vraiment. Mais moi, j'ai vécu un truc assez hardcore avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et qui s'était avéré être pas du tout la personne que j'aimais, en fait. Donc, à un moment donné, pour aller mieux, j'ai eu besoin de comprendre. Donc, quand on commence à s'informer comme si on allait passer un doctorat en psychologie, c'est qu'on a vécu un truc assez hardcore dans sa vie. Donc, voilà, c'était par défaut et j'ai besoin de comprendre pour aller mieux.
Pourquoi tu te pensais à l'abri ?
Parce que je pense que j'étais, comme beaucoup de gens, je pense que pour moi, on parle beaucoup de manipulateurs et... de pervers narcissique, j'aime de moins en moins ce terme.
C'est à la mode, enfin, c'est vraiment dans tous les magazines de
c'est
psychologie.
C'est surexploité.
Sur le pervers narcissique, quoi.
Ouais, je trouve qu'on en parle très mal, d'ailleurs. Tant pis si... Voilà, je dis, écoute, coup de pied dans la fourmilière. Je trouve qu'on parle très mal de la perversion narcissique, globalement.
Pourquoi ?
Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que dès qu'un mec nous trompe et nous ment, ou dès qu'une femme, c'est souvent les hommes, mais les femmes sont concernées aussi, mais... J'ai l'impression que dès qu'un homme ment un peu et nous a trompés, c'est un pervers narcissique, en fait. Et un petit mensonge, ça fait pas de quelqu'un un démon, parce que les pervers narcissiques sont des démons. Ce sont des génies du mal. Et un mec qui t'a trompé et qui te ment, c'est peut-être juste un connard, en fait, mais c'est pas forcément un pervers narcissique. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'on le met un petit peu à toutes les sauces. Et vu que tous les concepts sont toujours étirés jusqu'au ridicule aujourd'hui. Bah, quand une femme va être déçue d'un homme et qu'elle n'a pas forcément envie de se poser les bonnes questions ni sur elle ni sur lui, bah, elle va dire que c'est un pervers narcissique et c'est n'importe quoi en fait. Enfin... Donc moi j'ai eu envie de remettre un peu les points sur les i avec ça et faire la différence entre vrai manipulateur et petit connard de rue qui s'amuse à mentir pour servir son intérêt mais qui n'est pas non plus un grand prédateur. Il faut faire la différence.
Donc je reviens à la question de pourquoi tu te pensais à l'abri.
Pourquoi je me pensais à l'abri? Parce que pour moi, c'est vrai que j'y ai pas du tout répondu.
C'est totalement ma faute, je t'ai hijacké. Pourquoi est-ce qu'on parle mal des pervers narcissiques?
Parce que pour moi, je pense que j'avais en tête un peu le cliché, là, de vu qu'on parle beaucoup des pervers narcissiques et des manipulateurs, pour moi c'était un peu le cliché du mec séducteur, beau, bien sapé. Alors j'étire un petit peu l'argument de ce cliché-là, mais... Pour moi, j'étais suffisamment intelligente pour les voir venir à 100 mètres, quoi. Et en fait, vu que c'est des vrais caméléons et qu'ils savent absolument s'adapter à la personne qu'ils ont en face d'eux, et ben moi, quand ça m'est arrivé, j'ai rien vu venir parce que j'avais en face de moi quelqu'un de fragile, de gentil, d'humble, en fait, quelqu'un d'adorable, en fait. Et j'avais pas du tout cette image. Moi, quand je pense cliché du pervers narcissique, aujourd'hui, je pense à la série... Voilà, je pense à Lucifer de la série Lucifer. Je pense à ça, vraiment, le cliché du personnage, voilà, très grand, très beau, très un peu arrogant, très éloquent. Alors qu'en fait, un vrai manipulateur, s'ils étaient tous comme ça, on les sentirait venir tout de suite. Les vrais ne sont pas du tout comme ça. Ils savent nous amadouer beaucoup mieux que ça, en fait.
À quel moment t'as pris conscience que t'étais dans une relation toxique ?
Trop tard. Beaucoup trop tard. Je m'en suis rendu compte, bah après quand j'ai sombré, j'ai commencé à ressentir un besoin d'aide, alors que j'étais encore dans la relation, mais je comprenais pas pourquoi, puisque je pensais que le problème c'était moi, et que vu que j'ai tendance à me poser beaucoup trop de questions, là vraiment je m'étais convaincue que le problème venait de moi. Et après je me suis rendu compte vraiment de ce qui se passait des mois après la rupture, donc trop tard en fait. Quand je l'ai quitté...
C'est toi qui l'as quitté?
C'est moi qui l'ai quitté. Ouais, je l'ai quitté parce que j'étais trop mal, vraiment, j'avais sombré dans une dépression profonde et je comprenais pas pourquoi. Je pensais que j'avais touché le fond. En fait, il s'avère que les 6 mois qui ont suivi la rupture, c'est là où j'ai vraiment touché le fond, puisqu'il y a des vérités qui sont remontées, des mensonges encore plus gros qui me sont tombés dessus. Donc, en fait, j'étais loin du bout. Je crois que le post-rupture, c'était le pire, en fait. Sachant que... Ce qu'on appelle rupture, en fait, on fait beaucoup l'erreur de dire « je l'ai quitté », donc c'est une rupture. Ouais, moi je l'avais quitté, mais j'étais pas du tout en rupture, en fait, parce qu'on était en contact tous les jours. Je le laissais encore me mentir, je le laissais me manipuler, je le laissais m'appeler. La vraie rupture, elle s'est passée 6 mois après la rupture, là où j'ai dit « stop, je t'interdis de me parler, je t'interdis d'être en contact avec moi ». Et je lui ai retiré le contrôle, en fait. La vraie rupture, c'est ça. C'est pas de dire « je veux plus être avec toi », parce que souvent, en plus, si on reste en contact derrière, c'est qu'on veut pas vraiment être quitté, c'est qu'on espère qu'ils reviennent à plat ventre. J'ai attendu 6 mois en fait que ça arrive, mais c'est pas arrivé. Donc la vraie rupture, c'était pas ça. Mais après lui avoir dit que je le quittais, donc j'étais pas du tout en rupture parce que j'attendais des réponses, j'attendais des vérités et je comprenais pas du tout ce qui se passait, j'étais dans le flou. Donc j'ai commencé à le comprendre quand j'ai coupé les ponts avec lui et que j'ai commencé à lire des livres comme une grosse nerd pour comprendre ce qui m'arrivait, quoi. Et j'ai vu une psy aussi qui était super.
Oui, j'avais demandé à quel moment tu passes de « bon, ça va mal, je suis en dépression » à « je commence à me documenter sur ce sujet en particulier ».
Et ben, en fait, j'ai commencé à vraiment comprendre les choses quand j'ai vraiment réussi à prendre un vrai recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beau se dire « il faut que j'arrête, je sais que ça va pas, il faut que j'arrête », si on continue à être en contact avec cette personne, l'emprise ne s'arrête jamais, en fait. Tant que le contact est établi, on ne peut pas affirmer que l'emprise est terminée. C'est pas possible. Donc après, des fois, on a des contacts forcés quand il y a des enfants, des choses comme ça. Dans ce cas-là, le contact ne devrait concerner que les enfants, par exemple, et plus du tout notre vie perso, notre vie émotionnelle, voilà. Donc j'ai encore perdu le fil. Digression.
Je ne sais pas si on a lu les mêmes bouquins, mais moi j'avais notamment lu qu'il y a deux façons, il y a uniquement deux façons de se défaire d'un pervers narcissique, c'est la fuite ou le combat, mais le combat juridique quelque part.
Ouais.
C'est faut l'attaquer... en justice, donc faut divorcer devant les tribunaux, faut faire une action en justice.
Ouais, et encore, c'est pas toujours suffisant, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de tant qu'ils ne sont pas forcés d'arrêter, donc un jugement, un contrat, je ne sais pas, effectivement, il y aura toujours une emprise, il y aura toujours quelque chose. Et quand on peut le faire, se tirer vraiment, mais pas juste se tirer en répétant tous les jours « je te quitte, je te quitte, je te quitte ». Non, c'est une désintox du cerveau de vraiment « je me barre et je ne veux plus de nouvelles et tu n'existes plus », ce qui est très difficile à faire en fait.
Oui, j'allais dire, c'est pas toujours possible en plus de fuir. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marquée dans ta BD, c'est le moment où le personnage de la femme découvre les affiches du film dans lequel Marcus joue.
Ouais.
Je n'ose pas imaginer, enfin j'arrive à imaginer en fait, hein, mais je pense que j'ai vécu une expérience similaire, mais c'est juste que c'est tellement... Tu peux pas fuir en fait, enfin, t'es dans les couloirs du métro et tu vois ces affiches, tu vois ça...
Partout. Ouais, ça ressemblait, moi vraiment quand j'ai vécu ce moment-là, ça ressemblait à un... Je me suis dit, mais je suis dans le scénario d'un mauvais film français là. Vraiment, je me suis dit, là c'est pas possible en fait, je suis dans un téléfilm je pense que je suis dans un téléfilm allemand, tu vois. Où vraiment je sortais de chez moi les cheveux gras juste pour acheter des croissants et des clopes parce que ma vie se résumait à ça à ce moment-là. Et je vois sa gueule partout, je suis là, non mais c'est pas possible. Bah moi après j'ai la chance d'être freelance et je me suis tirée en fait. Je me suis tirée en Italie du coup pendant un mois, où je travaillais depuis là-bas et j'étais dans une piole à Florence, donc c'était cool quoi. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça, mais si j'avais été salariée et qu'il fallait que je prenne le métro tous les matins pendant 3 semaines, je faisais quoi ? En fait, je prenais une canne blanche et je fermais les yeux, enfin c'est pas possible. Donc en fait moi j'avais la chance d'avoir cette liberté professionnelle où j'ai pu me tirer. Mais 90% des gens ne peuvent pas faire ça. Donc en fait, ouais, on ne peut pas toujours disparaître et se tirer. Dans ces cas-là, bon, là, c'était une affiche de film. Il aurait fallu que je sois patiente et que j'attende. Et quand je suis rentrée d'Italie, c'était fini. Les affiches n'étaient plus là. Je suis rentrée dans mon quartier. Je dis bon, ouf, c'est bon. Mais non, effectivement, ce n'est pas toujours possible, en fait.
Ma psy m'a dit que toutes les femmes rencontrent au moins une fois dans leur vie un pervers narcissique. Est-ce que tu savais que ce phénomène avait une telle ampleur avant d'écrire ce livre ?
Non, non, franchement non. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit le bouquin, je me suis rendu compte que j'en avais croisé un quand j'avais 20 ans, en fait. Donc ça commence à remonter, c'était il y a 14 ans. Et je l'avais pas du tout identifié de la sorte, et j'étais pas sortie avec lui très longtemps. Et au bout d'un moment, il allait trop loin. J'avais fini par... Alors, il n'est pas allé aussi loin que Marcus, mais il avait quand même des traits de caractère assez similaires. Et j'ai fini par le quitter en me disant « ce mec, il me fait chier ». Mais j'avais pas du tout identifié que c'était un mec qui m'avait manipulé et qui m'avait détruit le moral en fait. Et après j'avais 20 ans et je voyageais beaucoup, je m'attachais à rien, donc je m'en suis remise. Mais c'est quand même quelqu'un qui m'avait déjà à l'époque fait du mal. Et en fait c'était ça, c'était un mec qui était complètement comme ça. Mais c'est à l'écriture de la BD que je m'en suis rendu compte. Et d'ailleurs à l'écriture de la BD j'en ai identifié d'autres aussi dans mon passé. Pas forcément en lien directement avec moi, mais en lien avec de la famille ou en lien avec des histoires d'amis ou des choses comme ça.
Et t'as pas peur à maintenant, à chaque fois que tu rencontres des gens, t'as pas cette méfiance de « attention, je vais plus me faire avoir ». Moi, je me débat avec cette peur panique de « mais je veux... » Enfin, avant, j'étais très très confiante envers les gens, l'être humain, et maintenant, j'ai vraiment une espèce de méfiance par défaut. Mais t'es qui ? Qu'est-ce que tu veux ?
Ouais, non, mais c'est... Ça, c'est un truc contre lequel je me bats encore, et je crois... Je crois finalement que mon expérience avec mon manipulateur à moi aura toujours une petite victoire sur moi, c'est qu'il m'a rendue méfiante, très 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 méfiante. Et j'ai eu une histoire d'amour récemment, là, qui a duré 1 an et demi, avec quelqu'un d'adorable, et ça n'a pas marché pour des raisons beaucoup plus pragmatiques, mais en tout cas, histoire douce et belle, et qui s'est terminée de façon très saine. Et ça m'a permis de me rassurer énormément sur les hommes, mais... J'étais quand même en face de quelqu'un d'extrêmement gentil, en qui j'aurais pu avoir confiance toute ma vie, certainement. Mais il a ramé pendant 6 mois avant que je lui accorde un tout petit peu de confiance. Et j'avais de la chance qu'il soit patient et tout ça, parce que j'étais, en termes de confiance en l'humanité, ça fait 3 ans que je suis terrée au fond d'une grotte et que j'ai beaucoup de mal à sortir, en fait. Et que dès que j'ai un doute, c'est un peu le Bernard l'ermite, quoi. Je sors un petit peu, dès que j'ai un doute, je rentre dans ma coquille... Donc c'est hyper, hyper difficile, ouais. On devient un peu une bête sauvage après des histoires comme ça. Et ça, pour l'instant, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a un peu rassurée là-dessus, mais c'est pas gagné encore. C'est hyper compliqué, ouais.
J'ai la sensation que t'es en train de me dire que pour réussir à refaire confiance aux gens, il faut faire confiance aux gens. C'est un bon conseil, je suis d'accord. Ouais. C'est juste que...
Il faut reprendre le risque.
Ouais, reprendre le risque.
Il faut reprendre le risque, mais quand on a mangé le bitume une fois... On n'a pas envie de se recasser les dents parce que ça repousse pas. Ça repousse pas comme avant, en fait. En tout cas, cette confiance-là. Donc ouais, faut reprendre le risque, mais c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué quand on a eu l'impression de frôler la faillite mentale à ce point-là. Frôler la mort, en fait. Hein. C'est ce que disait... Il y a eu une critique de mon bouquin qui a été faite par Yann Moix. La personne n'aura pas de commentaire de ma part aujourd'hui, mais en tout cas, en critique littéraire, voilà, il disait que c'était... quand il a parlé de mon bouquin, il disait que c'est un bouquin qui parle de la mort, en fait. Et c'est tout à fait ça, en fait. Quand on a l'impression d'avoir frôlé la mort mentale, en tout cas, d'aussi près, bah, c'est hyper compliqué de se dire « vas-y, je reprends le risque, il n'y a aucun problème. » Bah non, tu te protèges et tu redeviens un peu un enfant peureux qui réapprend. Mais, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai croisé la route d'un mec super. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde, même si aujourd'hui c'est terminé pour d'autres raisons. Mais il est là, il existe et c'est pas le seul en fait. Et heureusement, heureusement. mais quand même, quand il faut recommencer derrière, ouais, cette confiance qu'on avait, tout ce qui était facile chez nous avant. Moi, la confiance en l'autre, c'est un truc qui est très facile avant. Aujourd'hui, c'est un truc hyper difficile. Et ça, c'est dommage en fait.
Est-ce que t'es passé par une phase d'introspection où tu cherchais en toi les causes ou en toi les raisons? Enfin, est-ce que tu t'es blâmé? Est-ce que tu t'es dit en fait, c'est de ma faute, trop bonne, trop conne, quoi?
Ah bah oui, ah bah complètement, complètement. D'ailleurs, quand j'ai recommencé une histoire d'amour après, donc avec ce mec très gentil, il en pouvait plus à un moment donné parce que la phrase que je répétais le plus souvent, c'était « Mais tu sais, faire confiance à quelqu'un, c'est la meilleure façon de se manger la gueule, en fait. Plus je te fais confiance, plus je vais tomber de haut. » C'était triste, c'est hyper triste comme constat, mais vraiment, j'en étais là. Parce que je me disais « Mais en fait, j'ai été trop conne, j'ai accordé ma confiance et du coup, je suis tombée de l'Everest, en fait. » En termes de confiance et de déception, c'était les montagnes russes. Donc ouais, évidemment. Et puis en plus, les gens qui manipulent, les manipulateurs de sentiments, destructeurs comme ça, sont les rois, les maîtres de l'art pour nous faire penser que c'est nous les fautifs, en fait, et que le problème vient de nous. Et moi, l'argumentation, au bout d'un moment, a pris racine, donc j'étais persuadée que tout était de ma faute et que c'était moi le problème. Et comme j'ai un peu depuis que je suis toute petite, j'ai un peu d'anxiété sociale, comme tous les gens qui se posent un minimum des questions, en fait, j'avais l'impression que j'étais seule à être comme ça, en fait, on est si nombreux. Dès qu'on est un peu créatif et un peu intelligent, j'ai l'impression qu'on a de l'anxiété sociale et qu'on se sent socialement maladroit tout le temps, on dit n'importe quoi, on se refait le film de notre journée tous les soirs pour être sûr qu'on n'a pas fait de conneries. Enfin, donc moi, vu que j'étais comme ça, bah, évidemment, je pensais que le problème venait de moi. Au final, à partir du moment où on se pose des questions saines et sincères sur notre comportement, je pense que c'est déjà un bon signe. Puisque ces personnes-là, à part se flageller pour faire du chantage affectif, ne sont absolument pas capables de refaire une remise en question saine sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Donc, trop se remettre en question, c'est bien. Trop se remettre en question, c'est le pain béni des manipulateurs. En fait, à un moment donné, il faut savoir dire en fait non. Là, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi. Ce que tu me dis, c'est faux. Et je me barre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
Oui, effectivement, je pense que c'est indispensable de... sans arrêt s'interroger, se remettre en question, mais tu remets pas en question le socle qui est toi. Et c'est cette zone-là que ces mecs-là, enfin, mec ou meuf, encore une fois, mais souvent des mecs, arrivent à attaquer.
Ouais, oui, c'est ça. En fait, nous, quand on se remet en question, moi, j'ai tendance à beaucoup me remettre en question. Parce que ça va mieux maintenant. Depuis que j'ai vécu ça, j'ai reconstruit plein de choses, mais j'avais tendance à beaucoup me remettre en question, à beaucoup douter de moi-même. Mais par contre, jamais au point de remettre en question... la base et les fondations de ce que j'étais. Et je considère que aujourd'hui je sais que j'ai des fondations saines, mais j'ai la chance d'avoir une famille présente et pas parfaite mais aimante et présente. Et en fait, ça, c'est déjà indispensable à un développement à peu près solide. Mais ce que font les manipulateurs, c'est que la remise en question naturelle qu'on va avoir, ils vont l'emmener plus loin, et au bout d'un moment on doute de notre éducation. Moi, je doutais de mon éducation, je doutais de mes valeurs. En plus, ils sont très doués pour retourner les choses. Donc, toutes les bonnes valeurs que j'ai, ce que je considère être des bonnes valeurs, à un moment donné, il a réussi à les retourner contre moi. Donc, ça chamboule tout, en fait. Ça remue la vase de tout ce qu'on est, quoi.
Je voudrais revenir au travail que tu as effectué sur le roman graphique, la BD. J'ai moi-même une expérience de la dépression, donc je sais que c'est quand même difficile de se mettre au travail dans cet état-là. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as fait pour arriver à te dire « alors je vais raconter cette histoire » et te mettre au travail, puisque c'est un sacré boulot quand même?
En fait, la dépression, elle a duré un an, je pense. Pour 9 mois de relation...
C'est cher payé.
Un an de dépression profonde, je pense, et je dirais un an et demi pour aller bien. J'ai recommencé à remarcher, métaphoriquement parlant, au bout d'un an, au bout de 10-12 mois, et un an et demi pour aller bien. Tant que j'étais en dépression, j'arrivais pas à travailler, en fait. Il y a même des missions que j'ai plantées, des gens qui m'appelaient, qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fais? On attend tes illustrations, on attend... » J'ai planté des gens, chose que j'avais jamais fait en 7 ans de boulot, parce que... J'aime bien honorer mes engagements. Mais la BD, j'ai pas du tout réussi à m'y mettre tant que j'allais mal. Par contre, j'ai retrouvé des notes sur des billets de train, des post-it, des carnets, des trucs un peu à l'arrache, où je prenais des notes sans vraiment me dire que j'en ferais quelque chose. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai discuté avec un ami à moi qui est aussi dans la BD et tout ça, et qui m'a dit « mais en fait, il faut que tu le racontes, ça ». Et moi, j'y croyais pas, parce que vu que je doutais énormément de moi, je me disais, mais mon histoire personnelle n'intéresse personne, tout le monde s'en fout. Et en fait, plus une histoire est personnelle, plus elle est universelle, en fait. Donc, tout le monde, plus on raconte ce qui nous touche personnellement, plus ça touche les gens, en fait, parce qu'on a tous des histoires uniques. Donc, en fait, c'est un peu lui qui m'a convaincue de raconter ça. Et j'ai commencé à m'y mettre quand j'allais bien. Et je pense qu'on peut pas faire quoi que ce soit de constructif tant qu'on va mal. Peut-être quand on est triste, mais en tout cas, pas quand on est en colère. Comme moi, j'étais triste et en colère. C'est le cocktail idéal de la non-productivité, en fait. Ou en tout cas, de la productivité inutile et pas constructive, quoi. Donc, j'ai vraiment réussi à me mettre au travail quand la colère est passée. Et ça m'a pris 2 ans.
Alors, il y a 2 parties à ton roman. Il y a la partie histoire, où tu racontes l'histoire des 2 personnages. Et après, il y a une partie que j'allais dire plus pratique, et qui est presque un guide pour aider à survivre à un manipulateur narcissique, aider à s'en sortir de l'emprise et à s'en remettre. Alors, je t'avoue que c'est la partie qui m'a le plus touchée, personnellement. J'ai ri, j'ai pleuré, enfin, tout est magnifique. Merci beaucoup, vraiment, pour ce travail du CD public. J'imagine que tu as dû recevoir des dizaines, des centaines de messages suite à ça.
Des milliers.
Ah oui.
Là, j'en suis à un point où je ne réponds plus aux messages. Je ne peux plus répondre. Je m'en explique régulièrement sur les réseaux sociaux, parce que trop de messages... Trop de témoignages personnels. J'ai répondu au début. Aujourd'hui, je peux plus, en fait, parce que je suis que moi.
Et puis tu n'es pas psy. Enfin,
je suis pas psy.
Tu n'es pas une spécialiste.
J'ai pas vocation à écouter les histoires de chacun et à faire des conclusions pour eux. Et parfois, je reçois des messages de « j'ai l'impression que je vis ça. Est-ce que tu peux m'aider à identifier ?» Non. Et d'ailleurs. C'est le message principal de la BD, en fait, de les réponses, c'est toi. Les réponses, c'est toi, c'est personne d'autre. Et même quand tu vas voir une psy, elle va pas te dire « Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Une psy, une bonne psy en tout cas, ou un bon psy, va toujours te pousser à chercher les réponses toi-même. Tu vas pas aller voir un magicien qui va te dire « Ok, il y a ça, donc la solution, c'est ça ». Donc moi, je fais pas exception à la règle. C'est pas moi qui donne les solutions, c'est les gens... eux-mêmes qui doivent aller chercher les réponses à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait.
Et tu parlais des psys, mais c'est exactement la différence. Enfin, c'est l'une des différences principales entre l'aide et l'emprise. C'est que quand on t'aide, on te donne les moyens de toi-même pouvoir t'aider.
Oui.
Et l'emprise, c'est que, on voit là ton secours, mais du coup, de devenir dépendante derrière.
C'est comme un vieux dicton qui dit entre. Apprendre, c'est un truc en anglais, apprendre.
Si tu donnes un poisson,
voilà, c'est ça.
Un mec, tu lui donnes à manger poisson. Une fois, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie.
Exactement, c'est ça. Et quand tu crèves la dalle et que tu attends les petits poissons, là, c'est une forme d'emprise de pas chercher cette métaphore-là, je l'aime bien, de pas chercher les solutions toi-même, mais d'attendre qu'on te nourrisse de réponses, alors que je pense qu'on a plus ou moins tous la capacité... d'aller chercher nos réponses nous-mêmes. Et c'est ça qui est salvateur, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens sous emprise, souvent, n'écoutent rien. Quand ils vont avoir des amis ou de la famille qui vont leur dire « fais attention, ce que tu vis, c'est malsain, machin », tant qu'ils n'ont pas mangé le gravier avec leurs dents, ils vont pas arrêter, ils vont pas partir. Et moi, on m'a prévenu quand je suis sortie avec ce mec. J'ai quelques copines qui m'ont dit méfie-toi, je le connais, j'ai déjà entendu des choses sur lui. Et moi, j'étais là, oui, oui, d'accord, très bien, parfait. Et je suis pas partie et j'ai attendu de me casser les dents dans le gravier pour le comprendre moi-même. Donc, on peut pas être le sauveur de l'humanité entière. Et même quand on voit quelqu'un qui vit quelque chose comme ça, et ben peut-être qu'il le vit pour une raison qu'on ignore encore, mais qui lui sera utile à l'avenir, je sais pas. On peut pas sauver. Donc voilà. Donc moi, les gens qui viennent me demander trop d'aide, aujourd'hui, je peux plus leur répondre parce que la réponse, c'est pas moi. Il y a beaucoup de désespoir dans ces demandes. Il y a beaucoup de détresse, mais la réponse, c'est pas une autrice de BD.
Oui, et puis on l'a dit, effectivement, c'est un sujet qui touche énormément de monde. Ouais. C'est comme ça, c'est répandu. Et si vous avez besoin d'aide, en fait, allez chercher de l'aide auprès des gens qui sont habilités à vous aider. Et effectivement, l'aide que tu apportes, toi, c'est ce travail de vulgarisation. C'est une porte d'entrée sur le sujet qui est à la fois légère et pertinente, agréable parce que c'est quand même, c'est quand même un roman, c'est bien raconté, c'est drôle, enfin il y a,
ouais, puis le dessin ça aide,
c'est ludique, c'est très beau, enfin voilà, c'est une porte d'entrée agréable et en même temps c'est un sujet qui est difficile, mais c'est une porte d'entrée, c'est pas le manuel, enfin l'alpha et l'oméga de sortir d'une relation toxique.
Non, c'est sûr, c'est une introduction au sujet. Et un résumé, en fait, pour certaines personnes, ça suffit, parce qu'en fait, il y a tous les concepts qui, moi, m'ont paru importants, je les ai résumés avec des métaphores, des images et tout ça. Pour certaines personnes, ça va être un déclic suffisant. Pour d'autres personnes, il y aura d'autres personnes qui auront besoin d'aller plus loin. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas faire plus que tout ce que j'ai écrit. Bon, il y a 300 pages quand même, donc c'est difficile de faire plus.
Il y a de la matière. Alors justement, au propos des recherches que tu as faites pour le roman, notamment sur la deuxième partie, alors c'est un peu une double question. Faire ces recherches, lire tous ces ouvrages, est-ce que ça t'a plus fait du bien que remuer le couteau dans la plaie de « putain, j'ai pas vu ça » ou bien « waouh, mais c'est évident, qu'est-ce que j'étais bête de pas voir », etc. Enfin, ce genre de d'autocritique. Donc est-ce que ça t'a plus servi que coûté ? Et deuxième partie de la question, quels sont les principaux signes auxquels on devrait faire attention ou qu'on devrait essayer de repérer dans nos interactions avec les autres si on est en train de se poser des questions.
Si on est en train de se poser des questions, ouais. Alors déjà, donc le travail de recherche. Moi, les premières découvertes que j'ai faites, le premier livre que j'ai lu là-dessus, vraiment, d'ailleurs, je le dessine à un moment donné dans la BD, je me suis vraiment pris une enclume sur la tête. L'enclume Acmé là, qui te tombe sur la tête, là, comme dans Roger Rabbit.
Je l'ai.
Voilà, et c'était ça quoi, j'étais chez moi avec un livre à 16 balles dans les mains et j'étais en train de lire l'histoire de ma vie quoi. Et j'ai eu ce sentiment que tous les gens ont aujourd'hui quand ils lisent ma BD et tous les messages que je reçois qui disent « mais t'as écrit ma vie ». Moi je l'ai eu avec ce livre et j'ai eu envie d'écrire à l'autrice mais je l'ai pas fait pour lui dire j'avais l'impression qu'elle avait mis une caméra de surveillance sur notre relation. Qu'elle avait tout observé et tout décortiqué. Il s'avère qu'en fait, non, c'est un truc généralisé. C'est un comportement extrêmement standard et que malheureusement, elle n'a pas raconté ma vie, elle a raconté la vie de centaines de milliers de personnes. Quand on a essayé pendant des mois de décortiquer un comportement très flou et très bizarre, quand on se rend compte en moins de 5 minutes que c'est un comportement hyper standard, on se sent très conne quand même. Parce qu'on était là, ok, donc... Ça existe, tout était là, comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte. Donc ouais, il y a une longue période de « je suis bête en fait, je suis trop conne, c'est pas possible ». Et puis moi j'ai eu la chance d'être aidée par une super psy qui me disait, qui m'a expliqué aussi, qui m'a aidée à voir qu'en fait non, c'est pas que je suis conne, c'est que les manipulateurs choisissent des gens avec des ressources pour se repaître émotionnellement de cette nourriture affective, en fait. Et jamais ils vont aller choisir des personnes déjà vides, qui n'ont rien à donner. Au contraire, en fait. Les gens qui se font avoir sont des gens pleins de ressources. C'est ça qui est assez fou. Et moi, je pensais que j'avais justement suffisamment de ressources pour que ça ne m'arrive jamais. Il s'avère qu'en fait, j'étais la victime idéale. Donc oui, je suis tombée de haut et ça a remis en question un petit peu tout ce que j'avais construit pendant 30 ans. Et tout ce que je devais reconstruire et comment et pour qui et pourquoi. Donc ça fait beaucoup de questions. Donc ouais, on se sent très bête et ça c'est un témoignage qui revient souvent de femmes qui disent « mais qu'est-ce que j'ai été conne ?» Donc ça c'est normal. Si on vit ça et qu'on se sent conne, c'est pas grave, voilà, faut le digérer, faut l'accepter. Ça fait partie aussi du deuil, je crois, et de la reconstruction. Digérer le truc et accepter de ne pas se dire j'ai été conne, parce que se flageller, ça sert à rien, mais se dire et accepter qu'on s'est fait avoir. Je me suis fait avoir, aujourd'hui je le dis, je me suis fait avoir comme une débutante. J'ai pas pour ça que je suis conne, mais je me suis fait avoir. Bon, bah c'est comme ça, ça fait partie de mon histoire. Et aujourd'hui, il faut que j'évolue avec ça sans être dans la haine et la colère. Donc j'ai beaucoup aimé, moi, ces recherches, je les ai trouvées hyper intéressantes. Et une fois que j'avais digéré le fait que je me suis fait avoir, ça a été enrichissant pour moi et j'ai adoré ce travail de recherche. Moi, j'ai adoré mes études, en plus, je suis restée à la fac assez longtemps. J'ai adoré les études supérieures, ça fait un peu premier de la classe, mais... J'ai adoré les études supérieures et là, c'était un espèce de travail de recherche que j'ai trop adoré, quoi. Donc voilà, après la douleur, il y a eu la satisfaction. Et donc les signes principaux, bon, il y a toute une liste dans la BD qui a été faite par une autre autrice qui s'appelle Isabelle... Madame Nazar Aga, je ne sais plus son prénom, ou Aga Nazar, Nazar Aga, je crois.
Effectivement, il y a une double page avec, je crois que c'est 30
critères.
30 critères et qui permettent... Alors, c'est vrai que c'est une liste intéressante pour ça. Moi, je suis plus à la recherche de, si je suis en train de me poser des questions, de me dire, est-ce que je suis dans une relation toxique ou pas ? Donc, il y a effectivement tous ces outils, je renvoie évidemment à ton livre pour tout ça. C'est plus, ok, 3-4 signes principaux où je fais...
Dans cette liste, il y a des trucs plus flous que d'autres, plus évidents que d'autres. Moi, ce que je trouve le plus important, en tout cas par rapport à mon histoire à moi, parce qu'une fois de plus, toutes les histoires sont différentes et j'ai eu des témoignages de gens qui savent aujourd'hui qu'ils ont eu affaire à des manipulateurs ou des manipulatrices, mais par exemple qui n'étaient pas des menteurs, qui n'étaient pas dans la double vie, dans le mensonge, dans ce que j'ai vécu moi. Donc c'est hyper... tous les cas, il faudrait faire du cas par cas. Mais évidemment, déjà, c'est le mensonge, les petites incohérences qu'on peut capter dans le discours. Moi, si j'avais fait attention à ça, je serais restée avec lui 5 semaines, je pense, et pas 10 mois, 9 ou 10 mois. Donc les petites incohérences dans le discours, il faut les creuser. En fait, ça peut être de la maladresse, donc faut pas non plus se braquer dès qu'on entend quelque chose d'un petit peu incohérent. Par contre, on a le droit de creuser. En fait, moi, je considère que si on est en face de quelqu'un qui se permet d'être incohérent dans son discours avec nous, eh ben moi, je peux me permettre d'aller creuser la vérité pour savoir si cette incohérence, c'est une maladresse ou si on essaie de me la faire à l'envers, en fait. Donc, aller creuser de manière saine sans s'énerver, mais essayer de comprendre. Ça, c'est un truc que j'aurais dû faire et j'ai beaucoup trop fermé les yeux. Après, si on est en face de manipulateurs qui ne sont pas forcément des mythos professionnels, parce qu'il y en a, c'est pas ceux qui mentent c'est pas tous des énormes mythomanes, c'est les incohérences, mais dans le comportement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une grosse différence entre quand on est en privé et quand on est en public ? Et ça se met en place assez rapidement quand même. Qu'est-ce qui se passe derrière des portes fermées ? Qu'est-ce qui se passe quand la porte est ouverte ? Et s'il y a un gros fossé, c'est pas normal, en fait. Que ce soit dirigé contre vous, ou pas, en fait, parce qu'au début, ce qui va se passer derrière des portes fermées, ce sera pas nécessairement dirigé contre nous, mais ça peut être des conversations assez... des discussions assez violentes et agressives et viscérales contre quelqu'un d'autre, mais il va s'énerver, mais contre quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Mais c'est quand même vous, c'est quand même toi, le réceptacle de cette conversation, donc ça peut être stressant. Et si dès que t'es en public, c'est quelqu'un d'adorable qui aime tout le monde, ben, ça commence mal, quand même. Donc, ce genre de choses, ouais. En fait, les gens sains sont cohérents, tout simplement. Même s'ils ne sont pas parfaits et qu'ils font des conneries, quelqu'un de sain est cohérent dans son comportement. Et s'il a fait une maladresse, il est capable de l'avoir et de l'accepter.
Il est capable de se remettre en question.
Il est capable de s'excuser. Quand tu as fait une crasse, quand tu es à peu près sain, que tu fais de la merde, tu es capable de t'excuser.
Ça se voit, en fait, quand quelqu'un est vraiment désolé et dit « putain, je suis... désolé et sans justification, sans mais tu comprends, c'est parce que je t'aime trop que je me comporte comme un connard.
Voilà.
Ça bof en fait.
Non, c'est okay. Sûr. C'est des trucs déjà bon. Après, ça c'est pas typique des manipulateurs, mais en tout cas, ça d'être capable d'entendre une erreur et de s'excuser sans dire mais. Parce que ouais, mais je m'excuse, mais non. Quand t'as fait une connerie. T'es capable de dire, mais j'ai fait de la merde, je suis désolée, vraiment. Il n'y a pas de, ouais, mais tu comprends, non. Donc voilà, moi je crois que c'est un truc de cohérence générale, et ça, il n'y a pas de règle écrite. C'est aussi, il faut apprendre à faire confiance à ses tripes, en fait. Quand il y a un truc qui nous paraît bizarre, on a le droit d'aller creuser, on a le droit de mériter, en fait, la vérité, et d'aller la chercher.
Et je rajouterais sur ce point-là, sur se faire confiance, quand tout le monde autour de toi, comme quand beaucoup de gens autour de toi te disent « Attention, il y a ça, il y a ça, je décide pas à ta place, mais quand même, tu devrais te poser des questions. » Je sais que j'ai vraiment... Enfin, j'ai mis à distance l'intégralité de mon entourage. Alors que vraiment, enfin, je dis souvent maintenant, la terre entière m'avait méfié. La terre entière m'avait dit que ça n'allait pas. Et bah si, bah, j'étais convaincue que si, mais moi je sais.
Ouais, mais on est persuadé qu'on
sait. Seul contre le reste du monde. Sauf que le reste du monde est jamais à 100% contre toi.
Bah non.
Enfin, c'est pas un complot, quoi.
Non, c'est ça. Puis quand on a plusieurs personnes qui commencent à s'inquiéter, ce serait bizarre qu'ils fassent des réunions secrètes sans nous.
Surtout qu'ils se connaissent pas.
Ouais, surtout qu'ils se connaissent pas entre eux, donc c'est quand même... Avec le recul, c'est d'une absurdité sans nom, quoi. Mais quand on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte, en fait. Et il y a une personne qui va nous donner moins de nouvelles, une deuxième, puis une troisième, et des gens qui font pas partie du même groupe. Et tu te dis, bon, ben, on est aussi très doué pour s'arnaquer le cerveau, en fait. Et se dire, ben, en fait, c'est la vie. Les relations changent, on est adulte. Alors oui, les relations changent, on est adulte, mais elles changent pas du jour au lendemain sur un argument de merde. En fait, là, il y a un problème. C'est pas juste on a changé d'intérêt dans la vie et en 3-4 ans, on a commencé à moins se voir parce qu'on a changé. Non, quand il y a des gens comme ça qui commencent à nous tourner le dos, à pu se retrouver dans notre discours et à pu réussir à avoir une discussion normale avec nous, quand ils sont plusieurs, c'est peut-être que le problème, c'est nous, en fait. Et quand on se fait manipuler, on devient un problème pour les autres aussi.
Sophie, merci beaucoup pour toute cette partie de l'interview. Vraiment, on va changer de sujet, mais je recommande évidemment très chaudement ta BD, Tant pis pour l'amour, actuellement en vente partout, car vraiment, c'est un succès en plus, on peut le dire.
Oui, ça va.
Elle est modeste, c'est un succès. Dépêchez-vous de l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. La deuxième partie de cette interview porte sur l'adolescente que tu étais. Alors j'aimerais que tu choisisses... un âge de l'adolescence, donc les teen years, ça va de 12 à 19 ans. Tu choisis un âge et tu m'expliques pourquoi tu choisis cet âge-là et tu te décris un petit peu. Tu ressemblais à quoi? T'écoutais quoi comme musique? T'étais habillée comment? Enfin, ton état d'esprit à ce moment-là de ta vie.
La première image qui me vient quand je pense à moi, adolescente, c'est le lycée. Moi, j'ai fait une crise d'adolescence assez tardivement, quoi. Je pense que je l'ai commencé à 15-16 ans. Là où certains la commencent à 12-13.
Oh, je l'ai faite à 26.
Ouais, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et bah, j'étais au lycée et je traînais un peu avec les mecs cool, mais un peu underground du lycée. Je traînais avec les métalleux et les mecs qui faisaient du skate. Et du coup, j'étais avec ma meilleure pote à l'époque et on prétendait qu'on écoutait Rammstein pour coller un petit peu au groupe, alors qu'en fait on écoutait les L5, clairement. On écoutait les L5 en secret dans les chiottes du lycée sur un lecteur de disque portable bleu transparent, tu vois, vraiment le truc. Bah on était au début des années 2000, hein, donc on avait des lecteurs CD portables avec les boîtes de CD, non, les pochettes de CD dans le sac à dos avec les pages en mousse là, pour ranger les CD. Et on écoutait les L5.
On a le même âge.
On écoutait les L5 en boucle. Donc voilà, donc je mettais des baggies, j'avais des pantalons. Des pantalons très larges, mais quand même, je faisais quand même attention que ça me fasse un joli cul, parce que j'étais pas très sûre de moi, donc c'était quand même important d'avoir un beau cul pour plaire aux métalleux, tu vois. Bon, on va être honnête, hein. C'était les Vans pas lacés, où je marchais sur mes lacets en permanence. Elles sont tellement pas lacées qu'elles te tapent sur les talons comme des tongs en été, tu vois. Cheveux très longs en choucroute sur la tête, donc une choucroute qui avait l'air d'avoir été faite à l'arrache le matin alors que je passais trois quarts d'heure dessus en vérité. Mais il fallait que ça ait l'air d'être fait à l'arrache, c'était super important. Mais non, je passais des heures dessus et je me trouvais jamais jolie, donc ça prenait beaucoup de temps. J'étais pas du tout maquillée, pas du tout à l'aise avec ma féminité tant que j'étais jeune. D'ailleurs, ça, c'est un sujet duquel j'aimerais parler, un de ces quatre, du fait que évidemment, je me considère, j'adhère à la plupart des idées féministes. Et aujourd'hui, y a pas mal de féministes qui envoient chier le maquillage et qui disent « j'ai plus envie de me maquiller ». J'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de coller à ces trucs-là, et je trouve ça super. De mon côté, me maquiller aujourd'hui et me mettre du rouge à lèvres rouge quand j'ose le faire, c'est une façon d'affirmer que je suis une femme, parce que je me suis refusée ma féminité pendant très longtemps parce que je faisais un peu garçon manqué. Et aujourd'hui, quand je me mets du rouge à lèvres et que je me mets du mascara, pour moi c'est l'inverse. C'est j'assume que je suis une nana et que j'ai le droit de me faire belle tout en étant autre chose qu'un objet sexuel en fait, et je l'assume à fond. Donc ça dépend d'où on vient et voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, moi, je le vis comme ça, mais du coup, 14 ans, pas du tout maquillée, très mal à l'aise avec le fait d'être regardée par les garçons. J'ai eu une vie sexuelle très tardive aussi, là où toutes les copines racontaient leurs expériences sexuelles. Moi, j'étais là, ouais, cool, chamé, non, non, je ne sais pas de quoi tu parles, et plus tu en parles, plus j'ai peur. C'était chaud. Bon, au final... Au final, j'ai eu ma première expérience sexuelle au lycée et c'était très cool avec un mec très gentil. C'était mon premier amour, je l'ai aimé à la folie. Donc c'était chouette en fait, ça va. Mais j'étais à la bourre en fait. J'ai toujours été à la bourre sur tout et sur tout le monde. Donc,
À cette époque, est-ce que tu te projetais déjà dans ta vie future? Est-ce que tu savais déjà ce que tu avais envie de faire plus tard? Ou c'était une autre planète?
Non, je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai eu envie de dessiner depuis que je suis toute petite, mais j'ai lâché l'idée à 13-14 ans, je pense, parce que... après, moi, j'avais de la chance, j'avais des acquis. Je travaillais bien à l'école quand j'étais petite sans rien faire. Voilà. Et j'avais toujours des... J'ai eu une instite, une fois, qui m'a dit... c'était mon instite de CE2, CE1. Qui m'a dit « Sophie, c'est bien, t'as des acquis, hein, c'est bien. Mais si tu te reposes là-dessus, à partir du bac, ça marchera plus. » Puis moi, j'étais là « Ouais, ça va, ça va. » Et j'ai passé le bac 2 fois. Donc, elle avait raison. Donc, je travaillais bien à l'école et j'avais de la chance pour ça. J'avais des bonnes notes et tout. Et du coup, on m'a fait comprendre assez rapidement que dessiner, ça servait à rien. Et que vu que je travaillais bien, autant que j'essaye de faire des longues études et que... quand on voit la moyenne d'un CDI à Paris aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça serve à grand-chose encore d'essayer de forcer les étudiants à faire Bac plus 5. Franchement, soyez plombier ou...
Mais bien sûr, mais tu as totalement raison. Enfin, aujourd'hui, l'apprentissage a vraiment la cote.
Ah, mais vraiment.
Parce que c'est une façon de trouver un travail et dans plein de métiers dits manuels, vraiment...
Hyper dévalorisé, alors que tu es ton propre patron, alors qu'il y en a de moins en moins, donc tu as du taf. Et que t'as personne derrière toi pour te faire un burn-out, en fait. Donc, moi, je suis vraiment pour qu'on revalorise ces métiers et qu'on arrête de pousser les gens à faire Bac plus 5, là où, en plus, parfois, ils vont passer leur Bac plus 5 avec un peu de chance, et derrière, ils auront encore moins de débouchés, parce qu'en fait, non seulement ça les intéresse pas, et en plus, s'ils passent un peu ric-rac pour trouver du boulot, ça va être hyper compliqué. Donc, ils vont être surdiplômés pour faire un métier qui leur ressemble, donc, enfin... Bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, moi, on m'a fait comprendre assez rapidement que dessiner, ça servait à rien et qu'il fallait que je fasse des études longues. Donc, c'est ce que j'ai fait, finalement. J'ai abandonné le dessin tôt et j'ai fait des études longues. Et je me suis retrouvée... je me suis mise à redessiner à la fac, en fait. Je dessinais sur mes cours. Donc, ça m'est revenu dans les études supérieures, malgré le fait que j'ai adoré les études supérieures. Mais je me suis remise à dessiner à ce moment-là. Et puis finalement, c'est devenu mon job, malgré le fait que j'ai fait des études longues, donc faudrait qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. Mais c'est plus un job qui est venu à moi que moi. Moi, on m'avait tellement mis dans la tête que c'était impossible d'en vivre que jamais je me serais lancée là-dedans. J'ai eu de la chance et on a commencé à m'appeler pour me faire bosser parce que mon blog marchait bien. Mais je ne me suis pas lancée à l'aveugle, en fait. J'ai répondu à une demande présente. Mais je bossais énormément aussi. Ça veut aussi dire... 3 ans de blog sans aucune réponse et sans aucune motivation, sauf le plaisir et la passion, qui ont fini par déboucher là-dessus. Mais ça reste 3 ans de travail gratos, sans rien chercher derrière. Donc, il ne faut pas être trop pressé non plus. Donc voilà. Donc, moi, jusqu'à mes 12-13 ans, je voulais dessiner. Et puis après, je ne savais plus ce que je voulais faire. Et puis, 10 ans après, à 24 ans, je me suis dit, OK, en fait, je vais redessiner. Mais l'avenir était très flou. Même pour une élève qui bosse bien à l'école, l'avenir était hyper flou quand même.
Bah, je pense qu'on a clairement le même âge, vu ce que tu racontes de l'adolescence, on l'a fait au même moment. et je pense qu'on est une génération charnière, parce que le monde changeait déjà extrêmement vite à cette époque. Mais depuis qu'on est arrivés, toi et moi, après les études sur le marché du travail, l'évolution du monde, c'est, je veux dire, un truc de vieille conne, mais c'est impossible à suivre.
C'est compliqué. Mais on se sent déjà comme des vieilles connes. À plus de 30 ans, moi, je suis larguée. sur la plupart des trucs dont parlent les jeunes. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans le bus et j'entendais une gamine qui disait « Ouais, elle m'a bloquée sur TikTok. » J'étais « TikTok, TikTok. » Et du coup, j'ai cherché. Je fais « Ah oui, c'est ce truc-là. Ok, d'accord. Ah, on peut bloquer sur, sur TikTok. Ok, chaud. » Vraiment, j'étais complètement larguée sur un truc qu'un groupe de petites jeunes dans le bus avait l'air de maîtriser complètement. Ça avance très vite et on est vite largué, ouais.
Je reviens à l'adolescente que tu étais. Quel regard, toi, tu portes aujourd'hui sur cet ado ?
Sur l'adolescente que j'étais, je trouve qu'elle a perdu beaucoup de temps. je trouve que moi, l'ado que j'étais, qui n'était pas sûre d'elle, qui souriait jamais, on me disait tout le temps « Pourquoi tu souris pas ?» Et moi, j'étais là « Mais ta gueule, j'ai pas envie de sourire. Je suis pas bien dans ma vie. » C'était dur. L'adolescence, c'est hyper dur. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, si je pouvais l'avoir en face de moi, je dirais « Mais te prends pas la tête, en fait. Arrête de te poser trop de questions. Arrête de te trouver moche tout le temps. Arrête de penser que t'es pas assez bien. Genre, vis, vole, deviens, comme on dit. Et te prends pas la tête, quoi. » Je trouve que je faisais la rebelle et je faisais « Mais en fait, j'étais torturée. Et j'ai perdu énormément de temps à penser trop à moi. » Et on est très égocentré, en fait, quand on est mal dans sa peau comme ça. On a l'impression que le monde tourne autour de nous, que tout le monde nous regarde, que tout le monde nous juge. La vérité, c'est que tout le monde est tourné sur lui-même ou sur elle-même et qu'en fait, tout le monde s'en branle. Donc en fait, si aujourd'hui j'avais conscience de ça, je me prendrais beaucoup moins la tête et je passerais beaucoup moins de temps à me torturer sur mon apparence ou sur ce que je dis, sur ce que je fais. Enfin, ouais, je me lâcherais un peu les baskets, quoi.
Et elle, si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi ?
Je pense qu'elle serait contente quand même parce que je fais un métier qui me plaît, même s'il y a des aspects de ce métier-là qui me révoltent. Je fais un métier qui me plaît, mais j'ai gardé ce côté révolté encore que j'avais adolescente. Ça, j'ai jamais réussi à le perdre. C'est mon côté petite fille encore, ou mon côté jeunes, c'est que je comprends plus trop ce qui se passe dans le monde. Mais en tout cas, il y a encore pas mal de choses qui me révoltent et j'arrive pas du tout à me ranger et à me dire « Ok, c'est pas grave. Faut être adulte maintenant. » Et donc non, je pense qu'elle serait contente de voir qu'elle a réussi à devenir quelqu'un d'un peu plus sûr d'elle, qui se lâche les basques et qui est un peu moins exigeante avec elle-même aussi et qui est plus cool. Je suis beaucoup plus cool aujourd'hui qu'à 15 ans, en fait. Alors que je m'habillais beaucoup plus cool à 15 ans, mais ça veut rien dire du tout, en fait.
Bah, cela dit, t'es devant moi et vraiment, t'es au summum du coup. Là,
j'ai juste des trous dans mon jean, c'est pas...
T'as un badge Hey Arnold, vraiment, ouais, ça crie les années 90.
Années 90 de ouf. En même temps, je veux pas dire, mais t'as une veste Harry Potter Serpentard, donc je veux dire, en termes d'adolescente rebelle, je suis pas seule, quoi.
Je couperai au montage.
On n'est pas sur Gryffondor, quoi, excuse-moi.
Je voudrais qu'on parle maintenant de l'architecture de ta vie. Donc, comme je te le disais avant qu'on commence à tourner, il faut que tu choisisses entre, on parle de ta zone de confort ou du film de ta vie. Qu'est-ce que tu préfères ?
Le deuxième, allez.
Le film de ta vie, ouais. Ok. Si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale ?
Sa bande originale.
Ne prends pas ta vie au sens, faut tout résumer dans un film. C'est comme les biopics, en général, on choisit un angle sur la vie de la personne. Donc, ça peut être... Ça peut être vraiment le premier truc qui vient.
Bah là, comme ça, du coup, j'aurais envie de choisir la chanson « Toutes les femmes de ta vie » des L5, du coup.
Pourquoi ?
Parce que cette chanson, elle est c'est les L5. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi cette réponse est absurde, mais parce que c'est hyper drôle. Nous, on chantait cette chanson passionnément, et puis ça raconte quand même, voilà. Toutes les femmes de ta vie, tous les aspects d'une personne, de tout ce qu'on peut être et tout, avec des costumes quand même bien ridicules dans le clip et des chorégraphies de merde. Il y a un côté très premier degré dans cette chanson. Enfin, je sais pas, à l'époque où elles l'ont sortie, je crois que c'était quand même du premier degré, à l'époque où c'est sorti, qu'on a tous réussi à voir avec un œil très ironique et beaucoup de second degré. Et ça j'aime bien. Ça me correspond bien.
Si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique, le déclencheur de l'intrigue ?
Si ma vie était un film, le déclencheur de l'intrigue, c'est une bonne question. Je pense que ma vie a tourné quand j'avais 25 ans. C'était l'époque où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change tout. Enfin, pas que je change tout, mais j'ai vécu une relation amoureuse. Alors moi, jusqu'à 29, 30 ans, être en couple, c'était pas une priorité pour moi. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des études à l'étranger, tout ça. J'avais des histoires, mais c'était pas du tout une priorité ni de me mettre en couple, ni de me marier, ni d'avoir des enfants. Et ça l'est toujours pas, mais peut-être un peu plus d'être en couple aujourd'hui, mais voilà. Et du coup, à 25 ans, j'ai eu un réveil de la vie, vraiment, où je me suis rendu compte que mes relations amoureuses étaient pas saines, en fait. Si je dois résumer l'histoire d'amour que je raconte dans ma BD, c'était la pire. Mais en fait, avant mes 25 ans, j'ai eu plein de relations qui n'allaient pas aussi loin parce que j'étais jeune et que je voulais voyager, je voulais partir, donc je m'investissais pas autant. Mais en fait, je choisissais tout le temps des mecs qui ne me méritaient pas, en fait. Aujourd'hui, je peux le dire, ces mecs-là ne me méritaient pas. Et je m'en rendais pas compte parce que j'étais plus jeune et que j'avais pas du tout conscience de tout ce que j'étais comme je le suis aujourd'hui à 34 ans. Et donc voilà, j'ai vécu une histoire qui était un peu pas ouf avec un mec. Et je suis partie en Erasmus la même année. Et quand je suis arrivée en Erasmus, j'étais à l'étranger, je connaissais personne. Et j'ai eu un espèce de réveil de, en fait, tout ce qui m'arrive, c'est pas que de la faute des autres. Je choisis tout ce qui m'arrive. Les personnes que je laisse entrer dans ma vie, je les choisis. Et il faut que je fasse quelque chose, en fait. Et c'est à 25 ans, donc c'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions, à me dire, mais en fait, il faut que tu choisisses mieux et il faut que tu comprennes pourquoi tu choisis mal. Donc j'ai commencé à choisir mieux et à partir de ce moment-là, j'ai eu deux histoires d'amour avec des mecs adorables. Et puis il y a eu l'erreur de parcours de Marcus, donc l'histoire de ma BD qui m'est arrivée à 30-31 ans, où là je me suis pris un espèce de retour de bâton dans la gueule parce que je pensais que tout ça c'était fini. Et avant lui, j'avais eu que des histoires avec des mecs cool. Mais ça a été un vrai tournant et du coup, y a eu un deuxième tournant... évidemment avec mon histoire avec Marcus, où il a fallu que je pousse le questionnement encore plus loin. De toute façon, on ne s'arrête jamais en fait, de se questionner.
Alors ça va peut-être rejoindre la question suivante, qui est, si ta vie était un film, quel est le personnage qui débarque juste au bon moment pour te prêter main forte? Qui c'est et qu'est-ce que cette personne fait? Je précise que ça peut ne pas être une personne physique, ouais. Ça peut être un personnage fictif, ou ça peut être un élément.
Un élément, un truc...
Une lumière divine, les forces du destin, je ne sais pas. Sachant que la question d'après, c'est qui est le méchant de l'histoire? Donc tu peux intervertir ou répondre ensemble.
Qui interviendrait au moment où...
Au bon moment pour te prêter main forte. Tu sais, dans les tragédies grecques, c'est Deus ex machina. Tout d'un coup, on descend un personnage qui vient et qui règle tout. Acte 5, acte 5, scène 4.
Ouais. Moi, j'ai été dans les moments difficiles. J'ai été entourée, j'ai des amis... plus ou moins proche, mais voilà, je considère que j'ai été bien entourée. Pareil, le déclic que j'ai eu quand j'avais 25 ans aussi, c'était de me rendre compte que j'étais mal entourée. D'ailleurs, pas qu'en amour, mais aussi en amitié. Et ça compte. Donc, on fait un tri et on repart un peu à zéro. Au final, c'est hyper basique, mais les deux personnes sur qui j'ai le plus pu compter dans les moments les plus critiques, c'est mes parents, en fait. Et tout le monde peut pas le dire. Moi, je prenais ça pour acquis. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais non, moi, tu sais, quand ça va pas, je peux pas du tout compter sur ma mère, je peux pas du tout compter sur mon père. » Et moi, le moment où j'étais vraiment au plus bas, donc la plus grosse dépression de ma vie, donc c'est celle que je raconte dans la BD, et c'est mes parents, en fait. Je les ai pas mis dans la BD parce qu'il a fallu que je supprime plein de passages. Mais il y a eu des moments où mes parents sont montés, sachant que mes parents sont plus ensemble, ils sont montés à tour de rôle à Paris... faire des trucs de parents pour m'aider. Donc, c'est-à-dire que mon père, c'était la première fois qu'il faisait ça. Mon père, il n'aime pas la foule, il n'aime pas les grandes villes. Il est monté passer un week-end dans mon studio à Paris pour me poser des meubles de cuisine. Donc, il a fait des trucs de papa. Mais il était là, en fait. Et il était là et il a passé le week-end avec moi dans son studio. Et on a mangé de la glace dans le pot en discutant et pendant deux jours, et je le pensais pas capable de faire ça parce qu'il déteste, c'était pas du tout dans son élément. Et ma mère, elle est venue aussi, pareil, passer un week-end dans mon studio, m'aider à ouvrir mes cartons, me faire à manger, alors qu'ils habitent en Franche-Comté, que c'est des campagnards, ils avaient jamais fait ça. Donc, j'ai appelé à l'aide, moi je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup à l'aide, Et là, vraiment, c'était la première fois de ma vie que je les ai appelés et que je leur ai dit « Là, il faut m'aider, il faut faire quelque chose parce que je ne vais pas m'en sortir, en fait. » Et ils ont été là. Donc c'est aussi peut-être pour ça que je m'en suis sortie et que j'ai réussi à quitter mon ex vite et à ne pas me marier avec lui et faire des enfants. C'est que, mine de rien, je pense que quand on a des fondations familiales solides, ben en fait, on s'en sort et on arrive à distinguer, entre guillemets, le bien du mal. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Mais ouais, moi, mes parents, quoi. La famille, en fait, le socle familial.
Moi aussi. Quand tout s'effondre, c'est le socle familial qui est resté. Alors, qui est le méchant de l'histoire, de ta vie?
Qui est le méchant de l'histoire? Je crois que ce serait trop facile, en fait, de dire que mon ex manipulateur, c'est le méchant de l'histoire. Parce qu'en fait... c'est trop facile parce qu'ils sont trop nombreux, en fait, il y en a trop. Et je crois que le méchant de l'histoire, c'était moi aussi, en fait. Ce que j'ai accepté, le petit diable sur l'épaule qui te dit que c'est normal d'accepter ça et que tu mérites pas mieux et que de toute façon, la vie, c'est de la merde, on en mange un peu plus tous les jours. C'est ça, en fait, le méchant de l'histoire. C'est toi-même quand tu t'obliges et que tu arrives à te persuader que tu mérites tout ça et que tu mérites pas mieux. Parce que n'importe quel méchant que tu vas croiser après, si ce méchant-là, il est toujours sur ton épaule, tu vas les accepter tous, en fait. Donc, c'est de celui-là qu'il faut se débarrasser en premier, je crois.
Si ta vie était un film, après quoi tu cours? Quel est ton but?
Après quoi je cours? Bah, c'est marrant comme image, parce que moi, je suis quelqu'un de très oisif, quand même. Vraiment, je prône l'oisiveté. Et pourtant, j'ai fait une BD où je travaillais 18-19 heures par jour. Donc je suis capable de beaucoup travailler, mais dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très oisif et je trouve ça hyper important de savoir s'ennuyer et ne rien faire. Et justement, j'aime pas cette idée de courir après quelque chose. Ça veut dire que c'est un peu la start-up nation de il faut se fixer des objectifs, agir tous les jours pour les atteindre. Alors les gens qui se retrouvent là-dedans, tant mieux pour eux. Mais justement, moi, je ne cours pas après remplir mes journées de façon efficace. Je ne cours pas après des objectifs précis. Je trouve ça hyper important, justement, de savoir gérer le vide. Et je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ont beaucoup de mal à gérer leurs problèmes parce qu'ils ne savent pas gérer le vide. Et donc, ils ne savent pas gérer la peur d'être seul. Et tout ça, ça crée des gens hyperactifs et névrosés. Et moi, j'ai pas envie d'être hyperactif et névrosé parce que ça nous tombe dessus assez rapidement. Un matin, on se réveille, on se rend compte qu'on est hyperactif et névrosé, on l'a pas vu venir. Et justement, je crois que j'essaye. Enfin, mon objectif, du coup, si je devais avoir une envie, un truc final, ce serait de courir après rien, de pas faire des plans à trop long terme. Et parce que de toute façon, les plans, quand on se fixe sur des plans et qu'ils foirent, on est dégoûté. Et moi, j'essaie de rester dans une impro. J'improvise quand même beaucoup. C'est très rare que je fasse des plans dans très longtemps. Je suis très mauvaise organisatrice et très mauvaise intendante. Et j'essaie un peu de prendre les choses comme elles viennent pour ne pas être déçue et de ne pas trop remplir ma vie, en fait.
Très bonne réponse. Merci beaucoup pour ça. Je te propose de passer à la quatrième partie. C'est normalement une partie dans laquelle on s'arrête un peu sur les obstacles que tu as rencontrés dans la vie. Donc on a quand même assez longuement développé ce qu'a été l'épreuve de ta relation toxique avec ce mec. On n'a pas précisé, parce que c'est précisé dans la BD, mais Marcus, c'est un pseudonyme. Tu n'es pas en train de balancer en pâture quelqu'un que les gens peuvent retrouver. Je pense que c'est important de le dire. Est-ce qu'il y aurait une autre épreuve qui t'a particulièrement marqué et pourquoi?
Dans la BD, dans la vie ou une autre épreuve dans ma vie en général. Bah justement, ça je l'ai mis à un moment donné dans une note de bas de page dans la BD où j'explique que quand j'étais avec Marcus, j'étais en train de bosser sur un projet BD que j'ai décidé d'abandonner au profit de celle que j'ai sortie à la fin de l'année dernière. Et ça parlait d'un sujet qui est complètement différent. Et c'est peut-être ce sujet-là, d'ailleurs, que je vais reprendre pour un deuxième projet. Mais ça, on verra plus tard. Mais où je parle de... à l'adolescence, donc j'avais 16 ans. Et on m'a découvert une maladie rare, en fait. Un truc hyper évolutif, qui ne cesse d'évoluer, d'ailleurs, parce que j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Donc ça fait quand même 18 ans qu'on cherche ce que j'ai. Et en fait, j'ai la main gauche qui est quasiment paralysée aujourd'hui. Mais quand j'avais 16 ans, j'avais juste des douleurs, les doigts qui se rétractent, on ne savait pas trop pourquoi, donc j'ai dû arrêter mon sport préféré. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu une adolescence si difficile, et parce que j'avais enfin trouvé un sport que j'aimais, je faisais du hand, j'étais pas très forte. J'étais un peu mauvaise, mais enfin, j'étais vraiment pas la plus forte de l'équipe, mais je kiffais trop ce sport, et le sport d'équipe c'était trop cool. Et du coup, quand on m'a découvert ce truc, ben, j'ai dû arrêter, en fait, parce que faire du handball avec une main et demie, c'est compliqué. Et en fait, ça fait 18 ans qu'on cherche ce que j'ai et qu'on trouve pas. Et j'ai un milliard d'anecdotes à raconter sur ce sujet-là. Et je crois que ce truc-là m'a transformée aussi. Ça m'a posé plein de questions. Si j'avais pas eu ça, je pense que je serais une personne complètement différente aujourd'hui, parce que ça m'a forcé à me battre hyper tôt, en fait. Sachant que j'ai eu croisé des médecins qui ont essayé de me faire croire que c'était de ma faute si mon bras se paralysait, quoi.
Pardon ?
Ouais.
Sur le fondement.
Ben, en fait, quand on a des médecins qui ont fait 18 000 années d'études et qui ont beaucoup de mal à dire je sais pas, les trois mots je ne sais pas, ils vont essayer de nous dire bah oui, mais c'est parce que vous faites ci, c'est parce que vous faites ça. Et toi, t'es là, ben non, en fait, je connais ma vie. Celle-là aussi, c'est encore un truc important de savoir dire là, alors là, stop, parce que je me connais. J'ai un regard sur moi-même qui est plus accru que celui que tu as sur moi depuis un quart d'heure. Donc non, je ne fais pas ça. Mais à l'époque, j'avais pas 34 ans, j'en avais 16 et j'avais pas la même verve la même non-peur, en tout cas le même courage de dire non à des gens qui ont fait 50 ans d'études. Et j'avais un respect de l'entité médicale que j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, mais ouais, j'ai plein de choses à raconter sur comment l'ego peut te ruiner la vie, y compris dans le milieu médical, où voilà, moi j'ai été en face de médecins qui ont essayé de me faire croire que mon problème médical était de ma faute, plein de choses, et ça c'était un truc, bah oui, ça transforme aussi, la vie en hôpital, c'est pas, ça transforme tout le monde en fait. Si vous y êtes jamais allé, tant mieux. C'est plutôt cool. Donc ça, c'est un sujet intéressant aussi. Et ça a été une grosse épreuve dans ma vie, ouais.
Comment t'as fait pour la dépasser, oui, le choc, l'incompréhension, tous ces éléments ?
Bah en fait, c'est passé par. Mais encore une fois, je crois que le fait que j'ai une vie très oisive, en fait. Alors, je suis pas une grosse flemmarde quand même, je fais des trucs, mais je m'accorde tous les jours des moments où je suis très passive. Et je crois en fait que c'est ça qui me sauve la vie, parce que c'est les seuls moments où je réfléchis et je me pose les bonnes questions. Et c'est les seuls moments où, quand j'ai des vides existentiels et des crises existentielles, c'est les moments où je me pose et je cherche pourquoi. Pourquoi j'ai la gorge serrée depuis 3 jours ? Pourquoi j'ai mal au ventre depuis une semaine ? Et en fait, si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, les réponses, elles viennent pas toutes seules, quoi. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais mal depuis des mois à cause de ce problème-là. Et en réfléchissant et en étant très passive sur mon canapé, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à dépasser ça et j'étais mal parce que, inconsciemment, tous les soirs quand je me couchais, j'espérais qu'en me réveillant le matin, ce soit fini. C'était très inconscient. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, tu te réveilles tous les matins, t'es déprimée, quoi. Je bougeais ma main, j'avais encore mal parce que j'ai mal tout le temps. Et je me disais, ok, c'est encore là. Ben évidemment que c'est encore là, ça ne va pas partir en fait. Et un jour, j'ai conscientisé ça et je me suis dit, mais en fait, là, j'étais dans une démarche de je croyais au génie, quoi. Je croyais au génie et à sa lampe de passer tes journées à dire, je fais le vœu que ça, demain, je passe une nuit de sommeil et ce soit fini. Ben non, en fait. Mais c'est comme tous les problèmes. Moi, c'était un problème de santé. Je crois que ça peut marcher avec tout, ça peut être avec un problème de poids, avec un problème de calvitie, avec un problème de tout ce qu'on veut. C'est de s'endormir le soir en espérant que sa vie commence le lendemain sans ce problème-là. Alors que ta vie, elle a commencé il y a des années avec ce problème-là et en fait que c'est ça qu'il faut accepter. Et quand j'ai conscientisé ça, j'ai commencé à aller un petit peu mieux et à me dire « Ok, en fait, la vie va être comme ça tout le temps. J'ai pas besoin d'attendre de plus être malade pour que ma vie ait un sens, en fait. » Et j'ai accepté le truc et au début quand je me disais que je passerais toute ma vie comme ça, j'arrivais même pas à prononcer la phrase, je me mettais à pleurer, à faire des crises d'angoisse. Aujourd'hui je sais que ma vie sera toujours comme ça et je pleure plus en fait. Donc c'est un travail d'acceptation.
Merci beaucoup pour ça, notamment pour ce que tu as dit sur le fait de prendre du temps pour soi. J'en profite parce que j'ai lu ce matin justement un article publié sur Slate par Jennifer Padjemi qui parle justement du concept de self-care qui a été un peu dévoyé par toute une tendance très lifestyle et qu'en fait c'est pas juste le self-care, c'est pas juste Netflix and chill, c'est une notion très très politique. Donc j'en profite à aller lire cet article, je le mettrai dans les notes du podcast. Quel est l'accomplissement ou la victoire qui te rend la plus fière et pourquoi ?
Bah là, ce serait la plus récente, ce serait d'avoir terminé ce livre et cette BD en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens qui me suivent sur Instagram depuis assez longtemps ont suivi tout le processus de création de la BD parce que je fais des vidéos souvent en story sur Instagram et pendant la création de la BD, j'en pouvais tellement plus que je faisais souvent des stories en face cam où je disais j'ai envie de crever, en fait là j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée, il est 7h du mat, je suis pas couchée, le soleil se lève, je vais encore pas voir le soleil aujourd'hui. C'était un accouchement difficile quand même cette BD en termes de temps de travail. Et j'ai quand même fait 300 pages en 6 mois, donc c'était long. 6 mois ça passe vite, mais moi ça m'a paru une éternité et c'était très très dur. Du coup, quand la BD est sortie et que j'ai enfin reçu la BD chez moi et tout, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient « tu l'as fait quoi ». On pensait pas que t'arriverais au bout, on pensait que t'allais abandonner, ce qui arrive, hein, des projets avortés, il y en a plein. Et du coup, le fait d'être arrivé au bout et de... Moi, le premier message de remerciement que j'ai reçu, où je me suis dit « ok, donc là, j'ai aidé une personne, bah, mon job est fait en fait, je peux refermer ce chapitre définitivement ». Il est derrière moi et j'en ai fait un truc utile et qui aide quelqu'un, bah c'est cool en fait, je peux passer à autre chose.
Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu ?
J'en ai plein parce que c'est des choses qui me reviennent souvent. Alors là, faudrait que je me rappelle de une en particulier. Bah justement, j'évolue beaucoup à travers la critique. Alors après, je suis comme tout le monde, je me vexe un peu. Et puis après, je suis là, bon, vas-y, mets ton ego de côté et prends ce qu'on t'a dit. Après, ça dépend toujours aussi de qui ça vient. Quand je sais que c'est constructif, je m'autorise à être vexée 10 minutes. Et puis après, je demande des explications et je construis mon château de cartes autour. Quand j'ai fait ma BD, j'ai parlé en vidéo ou dans un post, sous un dessin. J'ai dit un truc très sûr de moi, en mode, oui, quand on a croisé ce genre de personnalité... ça nous arrive qu'une fois et pas deux et on est averti et ça nous arrive plus, donc j'étais hyper sûre de moi. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, une meuf que je connais pas, je sais même plus son pseudo, la pauvre, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Et elle m'a dit, je suis pas du tout d'accord avec toi en fait, parce que si ça t'arrive une fois et que tu fais pas le travail sur toi-même pour comprendre ce qui t'est arrivé, c'est le meilleur chemin pour reproduire le schéma et que ça t'arrive une deuxième fois, une troisième fois. Et ce qui te sauve, c'est pas d'avoir vécu ça, c'est de te remettre toi en question et de te regarder en face, en fait. Et elle a complètement déconstruit le truc que je venais d'écrire. Et sur le moment, j'étais là, mais elle me fait chier. Fait chier, cette meuf. Bon, après, je suis très impulsive et j'envoie chier assez rapidement. Mais ça veut pas dire que je réfléchis pas derrière. Et en général, je suis capable de m'excuser dans les 5 minutes qui suivent. Donc j'essaye de moins le faire et j'attends les 5 minutes avant de m'énerver. Du coup, je m'énerve plus. On grandit, hein, voilà. Et du coup, sur le moment, je lui ai pas répondu, mais je l'ai pris mal parce qu'elle m'a contredit. Donc, instinct primaire d'ego, tu vois, contredit, contrarié. Et après, j'ai réfléchi, je dis, mais en fait, elle a complètement raison, quoi. Et du coup, j'ai modifié mon texte et j'ai modifié un passage de la BD grâce à elle, en fait, où j'avais dit, oui, c'est une fois, après, on les renifle. Ouais, tu les renifles si t'as lu les 15 bouquins qu'il fallait pour comprendre.
Si tu t'es entraîné pour
exactement,
trouver l'odeur.
Exactement. Et du coup, ça peut effectivement t'arriver plusieurs fois si t'as pas fait la remise en question. Ça veut pas dire que t'es conne. Ça veut dire que pour l'instant, t'es dans le déni et que tu refuses de faire le travail qu'il faut faire.
Excellente illustration de ce qu'on disait beaucoup plus tôt sur la capacité des gens sains à se remettre en question. C'est que tu peux avoir une blessure narcissique à l'ego quand effectivement on t'attaque sur quelque chose en quoi tu crois, quelque chose que t'as fait, etc. Mais on est capable de laisser passer ça et derrière de s'interroger, de se remettre en question sur et si j'avais tort, et de se rendre compte qu'en réalité c'est pas grave d'avoir tort.
Non, c'est pas grave du tout et au contraire c'est être capable de l'admettre et de dire bah là vraiment j'ai chié dans la colle là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je trouve que ça fait de nous des meilleures personnes en fait, et quand t'es en face de quelqu'un qui a fait un truc pas cool et qui est complètement incapable de l'admettre et qui va être de mauvaise foi pour tout justifier et tout, au bout d'un moment ça va te pousser à dire bon ok, Je sais à quoi m'en tenir. Notre relation à partir d'aujourd'hui va être limitée. Enfin voilà, je vais te donner moins parce que. Enfin voilà. Et non, avoir tort, au contraire,
c'est pas un drame.
C'est pas un problème. Ça arrive.
Sophie Lambda, on arrive sur la dernière partie de cette interview. Je vais te poser une série de questions et je vais te demander de choisir l'une ou l'autre des propositions. Tu peux m'expliquer pourquoi si tu veux, mais comme on arrive vers la fin de l'interview et que t'as un train à prendre.
Ça va, on a encore une petite demi-heure.
Tu as le droit de refuser une question, mais je préférerais que tu m'expliques pourquoi.
Ok.
Ok.
Ça roule.
C'est parti. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste ?
Les deux. Est-ce qu'on a le droit de dire les deux ?
Tu n'as pas le droit.
J'ai pas le droit de dire les deux.
Alors tu m'expliques pourquoi t'arrives pas à choisir entre les deux ?
J'arrive pas à choisir entre les deux parce que je pense être quelqu'un d'optimiste. Genre, je suis pas quelqu'un de négative comme ça. Je suis pas quelqu'un qui plombe. Je ris beaucoup trop fort. Mais vu que j'ai un caractère quand même réaliste et que j'aime bien être ancré dans la réalité, ben vu que la réalité est pas très jolie en ce moment, on pourrait avoir tendance à devenir pessimiste, même si on est de nature optimiste.
Alors je dirais, je me permets de corriger ta réponse.
Vas-y, je t'en prie. Vas-y.
Je dirais que tu es optimiste et réaliste.
Ouais, réaliste. Qui, malheureusement, en ce moment, tend vers le pessimisme. Mais bon, voilà, c'est vrai.
Ça va répondre partiellement à la question, tu vas comprendre. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue ?
C'est chaud. Je sais plus. Je sais plus. Ce monde change qui on est. Je pense être quand même assez détendue de manière générale. Et vu que je prends beaucoup de temps pour réfléchir à plein de choses et tout ça, ça dégage l'anxiété. Ça a beaucoup soigné mon anxiété en fait, d'apprendre à rien faire et du coup plus détendue.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir ?
Nostalgique du passé, complètement. Complètement, ça c'est plus fort que moi.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude ?
Moments de solitude, carrément.
Tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain ?
Non, je suis quand même plus profiter de la vie.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente ?
Ça dépend si on parle de moi avant 2016 ou moi après 2016. confiante jusqu'en 2016 et prudente since 2016, quoi.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique ?
Organisée dans le travail et bordélique dans la vie.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique ?
Perfectionniste, de ouf.
Merci beaucoup, Sophie Lambda.
Merci.
Nous en avons terminé. Où est-ce que je peux envoyer les hordes de gens qui sont désormais complètement séduits par ton parcours et ta personnalité ?
Sur Instagram, Instagram, Sophie Lambda, attaché. Voilà, Twitter, j'ai un compte, je n'y vais jamais. Et Facebook, comme tout le monde, vu que j'ai pas 53 ans, un peu moins. Instagram, venez sur Instagram, on rigole.
Venez sur Instagram et venez en librairie.
Oui,
pour vous procurer.
Absolument.
Tant pis pour l'amour, vraiment, à lire et à mettre dans les mains de tout le monde autour de vous. Si ça ne vous concerne pas directement, a priori, vous connaissez quelqu'un que ça concerne. Donc n'hésitez pas. Moi, c'est une très bonne amie qui m'a mis ton livre entre les mains. Je te l'ai dit quand on s'est vu en dédicace. Et j'ai mis un mois à le lire tant je savais que ça me parlerait. Et j'étais pas déçue du voyage.
Remuer la vase.
Merci beaucoup, okay, Sophie.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je compte sur toi pour aller envoyer un max de love à Sophie Lambda sur ses réseaux sociaux. Et bien sûr pour te précipiter en librairie pour faire l'acquisition de cet incroyable ouvrage, Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur narcissique. Quant à moi, je te donne rendez-vous dès, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, puisque je prends une semaine de break. En revanche, si tu aimes les podcasts d'interview, tu devrais adorer Activiste, l'autre podcast que je coproduis avec Esther Meunier, alias Esther Reporter sur Instagram et YouTube. D'ailleurs, Activiste ne prend pas de vacances, tu pourras retrouver Esther dans un nouvel épisode, mardi 3 mars. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_pod.
Podoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.